Bonsoir Francis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Salut Jean-François.
Voilà, vous êtes sur RTF 95.4 MHz, vous écoutez le Mandarin Merveilleux, les réducteurs de textes, une émission consacrée à la littérature, à la musique classique et au jazz.
Tout à fait.
Alors, la littérature, deux livres intéressants. Je dirais même excellent, c'est pas si souvent, hein. Vous savez, je lis beaucoup de livres, mais il n'y en a pas beaucoup que je lis jusqu'au bout. Ça m'arrive très souvent d'abandonner la lecture en cours, car je trouve ça ennuyeux ou ça me déplaît. Bref, donc « Vider les lieux » par Olivier Rollin. Olivier Rollin qui a été récemment en résidence d'écriture à la Bibliothèque francophone multimédia à Limoges. Et puis un petit livre qui coûte 2 euros et qui est un livre consacré à littérature et amitié avec des auteurs qui ont traité de ce beau thème de l'amitié. Voilà, et puis alors, musique classique, j'ai porté des valses de Strauss.
C'est une très bonne idée.
C'est un peu, vous savez, le concert du Nouvel An, un peu à Vienne, en fait, etc. On se met un peu dans cette ambiance.
Et puis, c'est vrai que c'est un...
On n'en écoute jamais.
C'est un auteur qu'on n'écoute qu'à cette occasion-là, et le reste du temps,
Exactement. Donc voilà, on va écouter un petit peu. Et puis, j'ai porté des concertos de Mozart enregistrés sur un piano forte datant à peu près de l'époque de Mozart. Enfin, c'est une copie, mais quand même. Alors, je trouve que c'est plus curieux que beau, mais on en écoutera un petit peu aussi tout à l'heure. Voilà,
puis moi, un petit peu de jazz. Alors, regardez.
Qui sont dédicacés.
Quel snobisme. Un disque de Andy Emler, le pianiste très sympathique et très talentueux qu'on a pu voir sur scène à Limoges il y a peu de temps. Oh, j'ai envie d'écouter Sébastien Farge encore et
oui,
toujours.
Oui.
Toujours des choses tellement belles. Et puis Steve Coleman, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Mais commençons par une valse.
Voilà, Rose du Sud, Rosenau dem Süden, de Johann Strauss, interprété par l'orchestre, quelque chose qui s'appelle l'orchestre de l'opéra de Vienne. Et le chef, il s'appelle Peter Falk. Mais je ne crois pas que ça soit celui qui faisait Columbo.
Avec son chien
et sa 403 décapotable. Et sa femme dont il parle tout le temps et qu'on ne voit jamais, comme l'Eurlésienne. J'en sais rien, peut-être que c'est lui après tout.
On va se renseigner.
Thank you.
Voilà, Rose du Sud de Johann Strauss. Une de ses valses les plus célèbres, une des plus belles aussi, il faut bien dire.
Et pour nos auditrices, j'ajoute que Jean-François a esquissé quelques pas de valse.
Je serais bien empêché de le faire. Mais bon, tout ce que je sais faire, c'est battre la mesure. Et encore.
Dans le sens contraire.
Ouais. Bon, alors, un peu de jazz. Ouais, encore un de vos copains.
Eh bien, écoutez, on a vu dans la dernière édition d'Éclat d'émail un concert en trio de Andy Emler, pianiste, compositeur très doué, très charmant, très sensible, vraiment quelqu'un de... Et en même temps, c'est une espèce de colosse, alors c'est très amusant, et extrêmement sympathique. Alors, c'était le lundi, qui est vers le milieu du festival, et malheureusement, c'est souvent la date où il y a un peu moins de public, parce que bah, il y a eu des concerts le dimanche, et il y en a toute la semaine qui suit, donc c'était à Jean Gagnant, mais il y a eu quand même une salle raisonnablement remplie pour écouter ce très beau concert en trio avec le contrebassiste Claude Tchamichian, qui est un peu l'alter ego de Andy Emler, et puis un excellent batteur qui s'appelle Eric Echampard. Alors ils nous ont joué tout un tas de compositions de Andy Emler, et là sur le disque qu'il nous a gentiment dédicacé, il y a, qui s'appelle The Useful Report, il y a un certain nombre de titres qui sont tous inspirés par l'actualité et en particulier par l'info. Alors il y en a un, c'est The Real, la réalité, et puis le suivant c'est The Fake, The Lies, The Roys, The Resistant. Voilà, ce sont ces titres. Alors on va écouter The Fake, parce qu'évidemment pour une radio libre, bien entendu, nous ne passons que des fausses nouvelles. je crois, Jean-François, alors, qu'il est l'heure de nous présenter votre premier livre.
Alors, notre premier livre de la soirée, il est intitulé « Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Et c'est un de ces petits folios qui coûte 2 euros. Voilà, alors donc ça, c'est pas si, de grosses dépenses.
Si je ne m'abuse, c'est une citation extrêmement connue oui, alors, de Montaigne, voilà, parlant voilà, de la Boétie.
Tout à fait, hein, tout à fait. Alors, il s'agit d'une série d'extraits. Alors, en fait, ce livre qui donne le numéro du folio dont est extrait le passage qu'ils reproduisent, c'est-à-dire c'est pour nous inviter à lire le livre en entier. Hein. Alors, quels sont ces livres? Alors, il y a Le Petit Prince de Saint-Exupéry. On n'est pas obligé. Certains trouvent ça un peu fade, un peu niaiseux, donc je les cite rapidement. L'ami retrouvé de Fred Ullmann, Zilbermann de Jacques de la Cretelle, Jules et Jim de Henri-Pierre Rocher, Bruit du cœur de Jens Christian Grøndahl, que je ne connais pas, Le prophète de Khalil Gibran, qui est un poète persan, je crois. Un extrait des Confessions de Saint-Augustin, des Essais de Michel de Montaigne, des Pensées de Pascal, de La Peste de Camus, de La Débâcle de Zola, Les Deux Amis de Bourbonne de Diderot et Le Cahier Gris de Martin Dugard. Alors, évidemment, les choses... on aurait pu ajouter quantité de textes à ce petit florilège, en particulier le De Amicitia de Cicéron, qui reste un texte remarquable. Si vous êtes latiniste, le latin n'est pas très difficile. Si vous n'êtes pas latiniste, la traduction, il y en a plein, et on peut lire... Ça s'appelle L'Amitié, et c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Et alors là... il y en a un qui est archi connu, alors j'en lis quelques mots parce que voilà, au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Bien sûr, il pensait à Étienne de la Boétie, qui était son ami et dont la mort l'a beaucoup affecté. Alors évidemment, c'est un texte tout à fait... c'est du Montaigne, donc c'est pas mal, quoi, dans l'ensemble. Oui. Dans l'ensemble, c'est pas mal.
Ça tient la route.
Mais ça tient la route. Alors il cite aussi cette fable de La Fontaine, j'allais dire que tout le monde connaît, mais peut-être pas, qui s'appelle « Les deux amis ». Et c'est dans cette phrase qu'il y a qu'un ami véritable est une douce chose. Voilà. Alors, il la cite, évidemment, je la cherche et je ne la trouve pas.
Oui, parce que vous n'avez pas mis vos petits post-it.
Non, je n'ai pas mis mes post-it. Mais voilà, un beau passage de La Peste aussi, de Camus, où il y a un moment, vous en souvenez peut-être, c'est là qu'on se rend compte que La Peste reste et demeure un grand livre qui a survécu. Et vous savez, il y avait cette espèce de polémique entre Sartre et Camus et cette espèce d'idiot de Jean-Jacques Brochier qui avait traité Camus de philosophe pour classe terminale. Il n'empêche que, ce qui était à la fois bête et méchant, il n'empêche que plus personne ne lit Sartre. Et qu'on continue de lire Camus, et en particulier la production littéraire de Sartre, c'est absolument imitable.
Oui, ça a toujours été assez lourd.
Ça a toujours été assez lourd. Là, c'est devenu absolument illisible, alors que La Peste reste un grand et beau livre. C'est une scène alors, où on voit donc, le docteur Rieu et Tarot qui vont sur la plage un peu en trompant les gardes qui empêchent de sortir. Et ils décident que ce soit une heure d'amitié et ils prennent un bain, ils plongent et ils nagent un peu. Et puis voilà, et là il y a une espèce de communion entre leur sentiment d'amitié et aussi la nature et une sorte d'oasis dans le désert de la peste qui se déchaîne autour d'eux. C'est un beau passage. Et puis voilà. Vous savez, c'est la fable qui commence par « Deux vrais amis vivaient au Monomotapa », qui a vraiment existé. Hein, voilà, et donc c'est dans cette belle fable. Et puis alors, il y a un texte connu, mais peut-être pas tant que ça, qui s'appelle « L'ami retrouvé ». de Fred Ullmann. C'est l'histoire d'un jeune juif, c'est avant la guerre, et en Allemagne, et il se retrouve, il rencontre dans une espèce de pensionnat un camarade qui est un Hohenfels, alors c'est une grande famille aristocratique, et puis bon, alors il se noue entre eux un lien d'amitié, et puis bon, là-dessus, ils grandissent, ils se séparent, etc. Et bien des années plus tard, le narrateur apprend que son camarade Konrad von Machin a participé à un projet d'attentat contre Hitler et a été découvert et exécuté. Et c'est là qu'il a retrouvé son ami, parce qu'il avait monté cet attentat. C'est une belle chose. Voilà. C'est court, hein. Voilà, ça existe. Fred Ullmann, l'ami retrouvé, si vous ne connaissez pas, allez-y, vous ne perdrez pas votre temps.
Alors, redonnez-nous les références de ce petit livre à 2 euros.
Alors, 2 euros, ça s'appelle « Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Littérature et amitié par Montaigne, Albert Camus, Fred Ullmann et quelques autres.
Et
voilà.
Les éditions ?
Ah ben, c'est du folio, tout bête.
C'est
un
folio.
C'est le, je sais pas, il y a un numéro, mais je ne sais pas lequel. Enfin, voilà, facile à trouver, pas cher, un bon moment.
Thank you.
Voilà, donc c'était ce concerto. Alors c'est un des premiers concertos, pas le premier, mais c'est un des premiers concertos. Concerto numéro 6 de Mozart. C'est le Köchel 238. Et vous savez, il y a 600 et quelques numéros de Köchel. Alors, peut-être que le son vous a semblé un peu étrange. Alors, il y a une chose, c'est que ce que l'on jouait du temps de Mozart, ça ressemblait très vraisemblablement à ça. Mmh. C'est-à-dire un petit effectif, quatre premiers, quatre seconds violons, deux altos, deux violoncelles, une contrebasse, deux flûtes, deux cors, un hautbois, deux hautbois, donc pas un gros... Et surtout un pianoforte. Alors un pianoforte qui a été, non, il ne date pas bien entendu de l'époque de Mozart, mais il a été reconstruit, c'est une copie d'un instrument qui date de cette époque, alors même si c'est un instrument moderne. Alors, bon, voilà, moi je dois dire, je serais tenté de préférer les grands beaux Steinway actuels à ces instruments qui relèvent un peu quand même de l'archéologie ou de la curiosité ou des antiquités. Mais ça a son charme, après tout. Voilà, c'était donc Patrick Cohen au piano, l'ensemble baroque de Limoges dirigé par Christophe Coin, et c'était en 98.
Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Hein, Jean-François ?
Eh non ! Mais nous sommes toujours là.
On est toujours là, fidèle au poste. Et je vous propose d'écouter un extrait du dernier disque de Sébastien Farge. C'est un vraiment très très beau disque. Alors il a donné ce répertoire lors du festival Éclat des Mailles 2023. Là, et vraiment le public a trouvé ça mais vraiment merveilleux. Alors il faut dire qu'à côté du quartet de Sébastien Farge, qui se compose donc de lui-même à l'accordéon, de Amaury Fay au piano, Gauthier Laurent à la contrebasse et Francis Arnaud à la batterie, il y a un ensemble de cordes. 5 violons, un alto, un violoncelle. Je cite juste la première violon qui est Karen Geoffroy. Et donc ça donne un ensemble qui est quelque part entre... c'est pas le jazz et la java, c'est le jazz et le classique. Et c'est vraiment alors arrangé par Sébastien Farge, évidemment, qui est un formidable arrangeur, qui a fait des arrangements pour plein d'artistes très connus, vous savez. Et là, donc, c'est pour lui-même et pour son accordéon. Alors, je vous propose d'écouter un extrait de ce disque qui s'appelle donc Origine. Et l'extrait, c'est un standard qui s'appelle Valse, No Valse.
Thank you.
après Sébastien Farge, Jean-François Biardot.
Oh merci, mais je serais bien. Vous savez que l'accordéon est un instrument absolument diabolique. Si tu es vraiment avec tous ces boutons, c'est compliqué, c'est d'une virtuosité. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est un instrument qui est aussi difficile que le violoncelle, la harpe, etc. Enfin bon, revenons à nos moutons. Olivier Rollin, Vider les lieux. Donc je vous ai dit tout à l'heure, Olivier Rollin qui est venu en résidence d'écriture à la BFM de Limoges, qui a participé à plusieurs rencontres. Tout ça était extrêmement sympathique. Alors Olivier Rollin, je crois que j'ai déjà présenté des livres de cet auteur. Alors il a commencé par être un gauchiste, maoïste, la cause du peuple, etc., etc. Et il a fait partie des gens, il a réussi à se faire virer de Normale Sup Ulm, où il était entré en philo. Je peux vous dire, c'est pas facile le concours d'entrée, mais dans l'option philo, c'est encore pire. Et il a trouvé moyen de se faire virer. Et alors, il a un frère, donc Jean Rollin, qui a écrit plusieurs ouvrages aussi, dans un genre un peu différent. Alors lui, c'était un ingénieur, il avait fait Centrale, mais je sais pas s'il s'est fait virer ou pas. Toujours est-il que... alors, j'aime beaucoup l'œuvre de Jean Rollin. Et alors, qu'est-ce que... Vider les lieux. Alors, pourquoi? Alors, c'est un livre très personnel, mais c'est fantastiquement intéressant, très agréable à lire, très bien écrit. C'est le genre de livre qu'on relit volontiers, vous voyez. Alors, pourquoi Vider les lieux? Parce que il nous explique qu'il a habité longtemps rue de l'Odéon à Paris. Dans des conditions assez bizarres, parce que c'était un appartement qui avait été cédé à son éditeur dans des conditions bizarres par une vieille demoiselle qui, à son décès, il y a eu des histoires, enfin bref, d'une façon ou d'une autre, il a été sommé de vider les lieux. On lui a dit, foutez le camp. Et il doit donc empaqueter ses livres, les objets, enfin bref, tout ce qu'il a, et déménager. Et c'est bien sûr pour lui l'occasion de souvenirs, de lectures, d'auteurs, mais aussi de lieux où il s'est promené, car Olivier Rollin est un très grand voyageur, il est allé absolument partout, et dans les pays les plus invraisemblables, vous savez, par exemple, Port-Soudan, qui est un endroit d'ailleurs absolument épouvantable, mais il est allé aussi dans des endroits où on n'aurait pas l'idée d'aller en Ouzbékistan. Ah oui, alors, une chose amusante, il raconte que pour voir, il demande à Google Maps comment faire pour aller de chez lui à, je ne sais plus comment, j'ai oublié le nom de la capitale de l'Ouzbékistan. Vous non plus. Bon.
Tu vas me revenir.
Bon, mais enfin, c'est un endroit qu'on ne connaît pas. Et donc, il demande, et alors, qui lui répond, 6000 et quelques kilomètres, 11 jours, 3 heures,
c'est pas si loin que ça,
58. Finalement. Et puis alors, et il commence en disant, tournez à droite, prenez la rue de l'Odéon, tournez à droite dans la rue des Quatre Vents, etc. Et l'idée de qu'il parte vraiment de chez lui, c'est très amusant comme petite anecdote. Et donc, tout ça est très très bien. Alors il m'est vraiment difficile de donner une idée précise de ce livre, mais c'est très très bien. Et alors en plus, il y a, je dois dire que j'ai beaucoup de points communs avec Olivier Rollin. Alors par exemple, il note quelque part en disant le mot père et mère a disparu. Voilà, il dit aujourd'hui, je suis excédé par cette infantilisation de la langue contemporaine, symptôme d'une infantilisation plus générale qui a fait à peu près complètement disparaître les mots père et mère au profit de papa et maman, même quand il s'agit de choses aussi peu mignardes qu'un attentat, par exemple, la maman du terroriste, lequel est souvent, quant à lui, un gamin. Et c'est ce qu'on a entendu. J'ai entendu récemment à la télévision à propos de l'attentat commis par à Paris près du pont de Grenelle, où les journalistes, Caroline Roux en particulier, disaient la maman du terroriste, le papa du terroriste. On aurait envie de leur mettre des gifles. Bon, alors voilà. Alors, cela dit, il faut bien terminer. Et quelle est l'image qui vient à Olivier Rollin au moment d'écrire la dernière page? Eh bien, c'est une image qui est tirée de l'Ulysse de Joyce. Voilà. Et donc, il évoque une scène de l'Ulysse, et puis, stop, assez divagué, retour sur terre. La rue de l'Odéon ne va pas jusqu'à la mer. À peine s'est-elle élancée qu'elle s'arrête, bute contre le boulevard Saint-Germain, terrienne, urbaine, limitée, quoi qu'on en ait. Et ce n'est pas en bateau que je prends le large, etc., etc. Et donc, ça se termine par... Je remonte chez moi, c'est encore chez moi pour quelques instants. Je prends deux photos de la grande pièce que la lumière blanche du matin, versée par les fenêtres sur la résille rouge sombre des tomates, fait paraître plus nue encore qu'elle ne l'est, plus dépouillée de tout ce qui fut ma vie. Je ferme la porte, jusqu'à la fin du monde, comme dit Borges, dépose la clé dans une armoire électrique sur le palier, comme le requin de l'immobilier m'a demandé de le faire. Je m'en vais. Voilà. Je vous recommande la lecture de ce livre, très plaisante, et plus que ça, c'est de la belle littérature.
Vider les lieux de Olivier Rollin.
De Olivier Rollin, c'est chez Gallimard, bien sûr. Bien sûr. Voilà, eh bien, c'était une sonate en sol majeur de Scarlatti, interprétée par une pianiste qui s'appelle Dubravka Tomsic. Scarlatti qui a écrit un nombre de sonates absolument incroyables. À croire qu'il en écrivait à peu près une par jour.
Au petit déjeuner.
Au petit déjeuner, ah oui, oui, c'est vraiment... c'est des œuvres qui sont assez pédagogiques, il faut bien dire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'apprentis pianistes qui ont travaillé ces sonates. Voilà, puis qui s'en sont peut-être un peu dégoûtés, mais ils ont tort, parce que ce sont des œuvres... Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est très, la très jolie musique est très bien faite. Bon, alors c'est la même chose, j'imagine,
pour Steve Coleman.
Pour Steve Coleman.
Bon, là, c'est quand même un saut générationnel et assez différent de Scarlatti.
Oui.
Voilà, ouais. Alors, donc, Steve Coleman, il est venu avec la DMAI 2023. Il était très attendu depuis des années par tous les amateurs, parce que c'est un des plus célèbres, des plus aimés des saxophonistes alto de la planète jazz. Bon, alors je lui ai discuté un peu avec lui à la fin du concert, puis je lui ai acheté un disque qu'il m'a dédicacé, puisque vous savez que j'ai...
Oui, je sais, je sais.
Maniaque de ce truc-là. Et, oui. Mais c'est un disque de 2012 qui s'appelait Functional Arrhythmias, arrhythmie fonctionnelle. Alors, l'idée du disque, c'est d'essayer de reproduire le rythme des organes de notre corps. Alors, en particulier le cœur, la respiration, bien sûr, et ses irrégularités. Vous voyez, les arythmies.
Oui, donc, oui, je vois.
Donc, ça l'inspire beaucoup. Alors là, je vous propose d'écouter un morceau qui s'intitule Hormone Trig. Alors, c'est avec son quintet qui s'appelle Five Elements, les cinq éléments. Donc, Steve Coleman saxo et je cite juste son trompettiste Jonathan Finlayson qui est vraiment excellent. Thank you. ces notes de Steve Coleman qu'on se quitte, Jean-François, car l'émission est terminée.
En tout cas, on vous dit bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes, et on vous retrouve la semaine prochaine de 20h à 21h sur RTF 95,4 MHz. Mm-hmm.